Alors Jean, dans son récit, il a fait une sélection de personnes qui viennent à la foi en Jésus-Christ, qui font une rencontre avec Jésus et qui croient. Et chaque fois, on s'aperçoit que ces personnages, ils ont tous une particularité. Ce sont des personnages auxquels on ne s'attendrait pas vraiment qu'ils viennent à la foi, forcément, où ils ont un parcours surprenant. Par exemple, en chapitre 3, nous avons vu Nicodème. Nicodème, c'était un chef des pharisiens, cette partie complètement opposée à Jésus. C'est des méchants dans les évangiles, et pourtant c'est ce Nicodème parmi leurs chefs qui est attiré et intrigué, interpellé par Jésus, et il finit croyant à la fin de l'évangile. Juste après Nicodème, il y a cette femme samaritaine. Elle, c'est aussi un parcours surprenant avec tous ses préjugés contre les Juifs. Il y avait des barrières sociales, des barrières ethniques qu'il distançait de Jésus, et pourtant elle qui va croire. Et ici, c'est encore autre chose. Il y a cet homme, notre texte l'appelle un officier du roi. On pourrait dire un haut fonctionnaire du roi Hérode. On ne sait pas s'il est un juif ou un romain, mais probablement juif. À ne pas confondre avec un centenier romain qui demande à Jésus de guérir son serviteur dans les autres évangiles. Ici, c'est un haut fonctionnaire du roi, le roi Hérode. C'est-à-dire son patron, c'est Hérode, cet Hérode qui régnait sur la Galilée, qui n'était pas vraiment un roi, mais on l'appelait ainsi, puisqu'il était soumis aux autorités romaines. Et les gens, cette partie politique-là, c'était tout le contraire des pharisiens. Cette partie des Hérodiens, l'équipe des Hérodes, ils étaient plutôt pro-romains. Ils trouvaient tout un intérêt à travailler avec les Romains. Ils étaient pour la domination de l'Europe sur les affaires d'Israël. Et ces gens-là, voilà, ils ne se souciaient pas trop des textes bibliques et de la religion juive. Ils ont opté pour le choix plutôt pragmatique, séculier, de trouver un intérêt avec Rome. Leur vision du monde était séculière. Et donc ce haut fonctionnaire qui va venir à Jésus, sur l'échelle politique et religieuse, c'est tout le contraire d'un Nicodème. Ou bien sur l'échelle sociale, c'est tout le contraire d'une femme samaritaine, elle qui est plutôt une exclue de la société. Alors ici, c'est un haut fonctionnaire avec tous les avantages et la dignité qui va avec ce rang. Et c'est encore une personne qui voit croire en Jésus. Nicodème, la femme samaritaine, et maintenant ce haut fonctionnaire. Et ça, c'est surprenant, c'est étonnant qu'une telle personne va croire en Jésus. Récemment, j'ai vu qu'à Strasbourg, les églises sont réunies, ils ont conçu un événement qu'ils ont intitulé « Repères pour voter ». Alors, ils ont fait venir nos représentants évangéliques, plusieurs évangéliques qui côtoient un peu les politiciens, et pour donner des repères pour voter devant cette élection. Alors, ceux qui sont là, j'ai vu juste un résumé, mais voilà, ils ont dit « on ne va pas vous donner des consignes de vote, mais on va vous donner des repères pour voter ». Je pense qu'ils ont parlé de toutes sortes de critères et de repères qu'en tant que chrétien, nous pouvons avoir pour voter. Mais il a introduit en disant, sachez que c'était avant le premier tour, dans les équipes de tous les candidats, il y a des chrétiens. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a un peu étonné, parce que je me dis, certains candidats, qu'est-ce que fait un chrétien chez certains candidats? Donc ça m'a surpris. Mais après, en lisant ce texte, en tout cas, à la fin de Jean 4, il y a un chrétien dans l'équipe de Hérode, ce Hérode qui va tuer Jean-Baptiste, ce Hérode qui va livrer Jésus. Donc, si nous sommes étonnés de certains parcours qui viennent à la foi, les premiers lecteurs aussi étaient très surpris de voir un tel personnage croire en Jésus. Est-ce qu'il est resté à sa poste? Est-ce qu'il a démissionné dans la suite? Je ne sais pas s'il a réussi à composer sa foi avec son patron Hérode. Mais voilà le personnage qui va venir à la foi aujourd'hui. Et en alignant toutes ces personnes, des Nicodèmes, des femmes samaritaines, des hauts fonctionnaires comme ça, Jean montre que la foi n'est pas réservée à une certaine catégorie de personnes, à un certain arrière-plan, mais toutes sortes de personnes, toutes sortes de parcours peuvent venir à Jésus-Christ. Je me souviens, une fois, ma voisine en discutait avec ma voisine, et elle a dit, voilà, toi, tu as la chance, tu as la foi, mais moi, j'ai pas la foi, et c'est comme ça, toi, tu as la chance, tu as la foi, moi, j'ai pas la foi. Et c'est comme si c'était une fatalité, ou d'après où on était né, ou dans quelle famille, ou dans quelles circonstances on est tombé dans cette vie, on a la foi ou bien on n'a pas la foi. Et certainement, Jean a entendu ce genre de réflexion toute sa vie, et il a décidé d'écrire un récit sur la vie de Jésus-Christ qui répond à ce genre de réflexion, en disant, mais toutes sortes de personnes peuvent venir à la foi. Regardez toutes ces personnes qui sont venues à la foi. Et cet homme, il va nous montrer vraiment comment faire cette démarche de foi envers Jésus. À quoi ressemble cette foi authentique que Jean veut pour tout le monde. C'est le projet de son livre. Il dit, j'écris ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et donc, ce récit va nous montrer un peu cette démarche de foi. Quelle est la foi? On est encouragé à imiter la foi de ce haut fonctionnaire. Et dans ce texte, nous trouvons d'abord un signe de la mauvaise foi, et ensuite nous trouvons deux signes de ce qu'est une bonne foi. Donc un signe de mauvaise foi et deux signes d'une bonne foi. Voilà comment nous allons procéder. Tout d'abord, un signe d'une mauvaise foi, de la foi que Jean ne veut pas, que Jésus ne veut pas parmi ses disciples. C'est ce verset 48 qui a troublé plus d'un, puisque cet homme vient demander de l'aide à Jésus, et Jésus répond, verset 48, Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Et on est un peu dérangé par cette manière que Jésus accueille une requête qui semble sincère. Quelque part, il le repousse, il va le gronder. Et on se demande, mais d'où Jésus sort cette manière de parler? Mais Jean, jusqu'à là, nous a laissé quelques indices pour orienter nos pensées, pour nous mettre sur la bonne piste pour comprendre cette parole de Jésus, que j'avoue, au début, même moi, j'avais du mal à comprendre. Mais si on remonte de quelques versets, donc Jésus est en Samarie, après 2 jours, il part pour la Galilée. Et là, c'est sa patrie, la Galilée, il vient de là. Et verset 44 dit, « Car il avait déclaré lui-même qu'aucun prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. » Déjà, on comprend pourquoi il va en Galilée s'il n'est pas honoré dans sa propre patrie. Mais c'est peut-être la manière de traduire les petits mots grecs. Si on dit « Or, il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie », et puis verset 46, 45, « Lorsqu'il arrivait en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens. » Là, c'est étonnant. On s'attend à ce qu'il ne soit pas bien reçu dans sa propre patrie. Mais les Galiléens, ils lui font bon accueil. Mais après, Jean explique pourquoi ils lui font bon accueil. Car eux aussi étaient allés à la fête à Jérusalem, et ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, c'est-à-dire des signes. Et ça, Jean nous renvoie à ce qu'il avait dit en chapitre 2. Jésus a fait des signes, des miracles à Jérusalem. Beaucoup de gens ont cru en lui, mais Jésus voulait pas d'eux. En quelque sorte, il ne voulait pas ce genre de foi, cette foi qui était uniquement attirée, intéressée par les signes et les prodiges. Et donc, il a trouvé ça à Jérusalem, il revient en Galilée, normalement on s'attend à ce qu'il ne soit pas bien reçu, mais là il est bien reçu, sauf que la réception, les gens le reçoivent bien, pas parce qu'il aime, pas parce qu'ils trouvent en lui le sauveur du monde, comme chez les Samaritains, mais parce qu'ils veulent voir encore des trucs sympas. Ils veulent voir des signes, ils veulent voir des prodiges. Et c'est cette attitude dont Jean se méfie. Il ne veut pas inculquer cette attitude, juste une soif pour le spectaculaire que Jésus pourrait faire. Donc il souligne que les Galiléens l'accueillent, mais l'accueillent uniquement parce qu'ils sont dans l'attente d'un signe, d'un prodige. Et c'est tout le contraire avec les Samaritains. Et c'est pour ça que Jean met cet épisode juste après les Samaritains, pour nous montrer un peu le contraste. Quand Jésus était allé chez les Samaritains, aucun guérison, aucun signe, aucun miracle, mais il y avait cette femme et puis tout le village qui est venu à la foi, pas à cause des signes et des prodiges, mais comme Sylvain a rappelé encore ce matin, à cause de la parole, à cause de ce qu'ils avaient entendu Jésus dire. Donc, il y a toute cette foule, et c'est eux que Jésus vise par cette remarque, « Si vous ne voyez pas des signes de miracles, vous ne croyez pas. » Il ne vise pas spécialement le fonctionnaire, parce qu'après il va le tutoyer lui. Mais peut-être qu'il y avait tout un entourage, une foule qui regardait, et c'est à eux que Jésus adresse cette reproche. Ce père, on dirait qu'il vient avec un souci légitime, son fils est sur le point de mourir. Donc Jésus semble parler à des gens en général, et c'est vrai, c'est la nature humaine. Cette recherche du spectaculaire, du sensationnel. Si ça s'est déroulé à nos jours, certainement il y aura eu à ce moment un foule des médias, des journalistes, des caméras, des micros, cherchant à faire du buzz avec ce haut fonctionnaire qui arrive, et puis ce Jésus, ce guérisseur, et on veut être à la une des journaux, et on veut avoir plus de personnes qui regardent notre émission. Mais Jean veut nous aider à ne pas avoir ce genre de foi. C'est une mauvaise foi, c'est signe d'une mauvaise foi si on ne suit Jésus que pour les signes et les prodiges et le spectaculaire qu'il peut nous faire. La mission de Jésus n'était pas de faire la magie superficielle. Jean ne veut pas que notre foi dépende d'un Jésus génie dans la lampe, un Jésus guérisseur, un Jésus impressionnant, parce qu'il sait ce qui vient par la suite. Est-ce qu'une telle foi va tenir bon devant la croix et la honte de la croix? Est-ce qu'une telle foi va tenir devant une épreuve? Est-ce qu'une telle foi va tenir devant une maladie par laquelle Dieu nous fait passer? Si notre foi veut juste accueillir Jésus parce qu'il fait des signes et des prodiges, qu'est-ce qui va se passer ces jours-là? C'est vrai que certains milieux, même chrétiens, mettent beaucoup d'accent sur les miracles et les prodiges. C'est ainsi qu'ils essaient de susciter la foi. Ils disent que la foi est très liée à ces choses. Mais le projet de Jean, c'est tout le contraire. C'est de nous détacher de ce besoin constant de signes, de prodiges et de miracles pour vivre notre foi avec Jésus. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous gérez des entretiens d'embauche dans le travail. Et comment vous discernez la personne que vous allez embaucher? Une personne se présente, il a un CV merveilleux sur papier glacé, avec un parcours qui semble prodigieux, plein d'expérience dans plein de boîtes. Oui, c'est bien, mais au fond, ce n'est pas le papier glacé qui vous impressionne, que vous cherchez finalement. Au fond, vous voulez une personne qui va être fiable, une personne sur laquelle vous pouvez compter, une personne intègre dans son travail, une personne travailleuse. C'est ça que vous cherchez. Donc vous essayez de creuser derrière la façade, derrière le côté impressionnant, vous voulez connaître le fond. Et c'est ce que Jean veut nous aider à faire avec Jésus. Beaucoup cherchent, se contentent, se laissent emporter par ce côté impressionnant, le côté joli. Mais la vraie question, quand on cherche un sauveur, la vraie question quand on cherche la vérité, c'est plutôt des questions au fond. Est-ce que je peux compter vraiment sur lui pour me sauver pour l'éternité, pour régler le problème du péché? Une foi uniquement impressionné par les signes et les prodiges, c'est pas ce que Jean veut pour nous. Donc ça, c'est signe d'une mauvaise foi si on est constamment en train de suivre Jésus uniquement pour les miracles qu'il peut faire. Maintenant, voyons deux signes d'une vraie foi, d'une bonne foi, d'une foi authentique, la foi que Jean veut que nous ayons. Ce qui est beau, que cet homme, il réussit le premier test. En quelque sorte, il ne conteste pas, il ne s'offusque pas par cette parole qui semble dure de Jésus. Il ne cherche pas à rétorquer avec une réponse. Il dit simplement, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Cet homme, jusque-là, avait une vision très séculière du monde, en tout cas s'il avait rattaché aux idées de Hérode et toute sa bande. Mais il n'y a rien comme une situation dramatique pour balayer tout ça et pour susciter peut-être une première prière à Jésus, comme il fait. Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Et comme vous voyez en verset 50, Jésus n'exauce pas sa prière. Jésus n'exauce pas toutes vos prières. Mais Jésus fait mieux. Jésus dit en verset 50, « Va, ton fils vit. » Voilà, c'est tout ce que l'homme a. Une parole de Jésus. Va, ton fils vit. Et à ce moment, cet homme a un choix. Ou il peut dire, bon, mon œil, il a juste voulu se débarrasser de moi. Je connais comment ça marche dans la fonction publique déjà. On fait des demandes et que la personne dit oui, je m'en occupe, c'est bon, c'est géré. Et au fond de vous-même, vous savez que le dossier va rester en suspens. Donc il peut se dire, hein, il veut juste me renvoyer, qu'est-ce que je peux faire? Je vais rentrer à moi, trouver que ça n'a rien fait et après essayer de revenir. Donc il aurait pu repartir comme ça, ou bien, comme dit le verset 50, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Je pense que c'est la phrase clé de ce récit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Jusque-là, il n'a rien vu. Il n'a aucune preuve immédiate que son fils est guéri. Aucune vision, aucun rêve, aucune intuition maternelle ou paternelle, que voilà, ça, certainement mon fils aille mieux maintenant, va mieux maintenant. La télépathie Star Wars n'existait pas encore, ni les SMS. Il en a pour 40 km de marche. Il y a 40 km environ entre Canaan et Capernaum. Et donc, il a 40 km de marche. Et il n'a qu'une seule chose sur laquelle s'accrocher, une chose pour le motiver, c'est cette parole, une parole que Jésus lui avait dite. Et il va rentrer chez lui en saisissant, en s'agrippant, en croyant cette parole. Jésus a dit que mon fils vit. Il va prendre Jésus au mot et repartir. Et là, nous avons vraiment un aperçu de la vraie foi. C'est ça, la foi. Et en ça, nous pouvons imiter parfaitement cet homme. Aujourd'hui, comment suivre Jésus, nous, alors qu'on n'a pas vu de nos yeux les signes et les miracles dont nous raconte l'évangile de Jean et les autres évangiles et toute la Bible? Comment suivre Jésus? On n'a pas vu Jésus ressuscité comme ça. Ben, nous pouvons suivre Jésus, nous pouvons croire en Jésus exactement comme ce fonctionnaire. C'est-à-dire croire à sa parole. Prendre Jésus au mot. Être convaincu, par exemple, que sa parole agit à distance. À distance dans le temps, à distance dans l'espace. Parce que Jésus est dans le ciel, mais sa parole est vivante et efficace encore aujourd'hui. Nous pouvons croire que sa parole donne la vie. Nous donne la vie éternelle et peut encore donner la vie aux autres. Vous voyez, exactement comme ce fonctionnaire, nous marchons sur le chemin de la vie, qui peut sembler long parfois, nous marchons par la foi, basé sur une parole que Jésus nous avait dite, c'est-à-dire la Bible. Quelques exemples, peut-être, de ce que c'est de prendre Jésus au mot et d'avancer en la vie. Vous croisez ce verset en Jean où Jésus dit, si quelqu'un croit à ma parole, eh bien, il ne vient pas en jugement, il passe de la mort à la vie. Eh bien, prenez Jésus au mot pour cette parole-là, en disant, si je crois à sa parole, si je crois ce qu'il a fait pour moi à la croix, eh bien, je ne viens pas en jugement, je suis passé de la mort à la vie. Ou bien vous pouvez vous liser les paroles de Paul, les épîtres de Paul, qui sont aussi les paroles de Jésus. Et vous croisez ce verset qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse en Jésus-Christ. » Alors vous prenez Dieu au mot là et vous dites « Quelle que soit la situation que je traverse, Dieu va prendre soin de moi. Il va pourvoir à mes besoins, selon sa richesse en Jésus-Christ. » Et j'avance et je marche en s'attachant à cette parole par la foi. Vous voyez ce que c'est ça la foi, c'est prendre Jésus au mot et avancer, être emporté par ce qu'il a dit. Ça, c'est un signe d'une bonne foi, c'est qu'elle est basée, elle s'appuie sur la parole de Jésus-Christ. Et pas ce qu'on peut sentir, pas ce qu'on peut voir, mais ce que Dieu a dit. Et un deuxième signe de ce que cette foi authentique, une bonne foi, c'est que c'est une foi grandissante. Martin Luther qui a remarqué cet aspect intéressant de l'histoire, c'est que la foi de ce fonctionnaire, on dirait que c'est par étapes. Et qu'elle grandit. Déjà, il fallait un minimum de foi rien que pour venir à Jésus-Christ, faire le voyage, 40 km, pour trouver Jésus. Pour l'instant, c'est vrai, cette foi, c'est plutôt un recours en détresse. Et cette foi, il cherche quand même un signe, un miracle. C'est une foi panique, c'est une foi de crise. c'est une foi de détresse. Pour l'instant, il ne connaît pas bien Jésus. Peut-être il sait que c'est un guérisseur, donc c'est une foi en Jésus guérisseur. Mais cette petite foi, elle est quand même légitime parce qu'elle elle amène à Jésus. C'est vrai que dans la suite, il ne faut pas, nous, qu'on se tourne uniquement à Dieu, uniquement à Jésus quand tout va mal ou quand il y a une grande crise dans la famille. Mais c'est un bon début. Et souvent, ça commence comme ça, quand il y a une crise ou une détresse. Et ça, c'est tout à fait légitime. Et Jésus accueille une telle démarche. Donc, il y a une petite foi, déjà, pour aller vers Jésus, même s'il maîtrise, il ne comprend pas tout. Ensuite, il fallait cette foi qu'on a vue en verset 50, cette foi pour repartir, sans avoir preuve de la guérison en pas. Il crut à la parole et il s'en alla. Ça, c'est une foi encore... Ça, c'est déjà la bonne foi qui s'appuie sur la parole de Christ et qui avance dans la vie. Il a cette confiance, c'est une foi simple, mais c'est une foi qui va le diriger dans sa vie. C'est une foi remplie d'espérance parce qu'il croit à la parole, il repart à la maison, s'attendant à voir son fils guéri. Sur tout le chemin, je m'imagine bien qu'il a des moments de doute. Mais est-ce que je vais... Quand j'entre dans la maison, est-ce qu'il va être guéri ou pas? Je pense, je l'espère. Mais on comprend qu'il y a eu des moments de doute, mais il croit. C'est une foi authentique, une foi simple, une foi déboutante. Donc il repart en chemin. À quelque distance de là, à 13h, la guérison s'est faite à 13h l'après-midi, on apprend, à 7e heure. Donc c'était la partie la plus chaude de la journée à Capernaum. J'ai même regardé la météo à Capernaum aujourd'hui, l'autre jour. Il était prévu 37 degrés aujourd'hui. Bon, il fait assez chaud, 37. Milieu de la journée, cet enfant a une fièvre, d'après le texte. Donc sa maman fait tout, certainement, pour baisser la température. En pleine chaleur de la journée. Ce garçon est entre la vie et la mort. Peut-être à un moment, elle sort de la chambre pour chercher de l'eau, pour rafraîchir son garçon. Et puis elle revient dans la chambre et trouve son garçon plein de pêche. « Maman, je peux jouer avec les copains. Maman, je veux le goûter. Qu'est-ce qu'il y a à manger, maman ?» On imagine sa joie, mais vite, donc, elle envoie ses serviteurs pour donner la nouvelle au papa. Lui, il était parti la veille. On imagine s'il y avait 40 kilomètres à pied à faire, ne pas voulant marcher en pleine chaleur non plus. Ils ont dû faire une halte pour la nuit. En tout cas, il constate que c'était la veille. Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Et là, il a confirmation. Et en verset 53, il veut savoir à quelle heure ça s'est passé. Eh bien, tout le monde se rappelle, c'était à 13 heures. Eh bien, le 53, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit » et il crut, lui et toute sa maison. Et là, c'est notre niveau de foi. Ou c'est une foi maintenant aguerrie, c'est une foi confirmée, c'est une foi de pleine conviction. Il avait cru à la parole de Jésus, qu'il a poussé à faire le chemin. Et là, il a la confirmation. Et maintenant, lui, toute sa famille croit pleinement. Donc, c'est une foi complète. C'est une foi qui vraiment a expérimenté le secours de Dieu et qui peut en attester, en témoigner. C'est une foi qui entraîne les autres. Ici, ça dit que toute la maison... Toute sa maisonnée croit, donc c'est son épouse, c'est son fils. Mais à l'époque, la maison, c'était aussi des serviteurs, et en tant que haut fonctionnaire, il a certainement tout un entourage. Et donc toute sa maison va croire, parce qu'il voit l'authenticité de la foi du père de maison. Et vous voyez, c'est bon signe que notre foi progresse ainsi. Ça commence peut-être tout petit pour nous pousser à Jésus-Christ, et puis il y a une foi dans sa parole, et puis une foi vraiment affermie. Je me suis imaginé un pont en corde, comme on peut les trouver dans les jungles de l'Amérique du Sud. Vous avez vu ça, peut-être une longue pont suspendue, fait de cordes, de lianes. Peut-être la première fois que vous rencontrez un tel pont, vous dites « Ah, jamais de la vie, je mettrai un pied dessus ». Mais si un jaguar affamé derrière vous, et justement, les situations de crise et de détresse peuvent susciter la foi. Donc cette fois-ci, vous avancez sur le pont parce que c'est votre seul recours. On va supposer, pour mon illustration, que le jaguar, il a le vertige. Donc, il n'avance pas avec vous sur le pont. Donc, la première fois que vous traversez ce pont, vous avez la vie sauve déjà. Pas à pas, vous êtes très hésitant. Des fois, vous n'êtes pas sûr que les cordes vont tenir. Vous demandez, ça a été construit il y a combien de temps, il y a combien de siècles, je ne sais pas. Et vous êtes hésitant, mais vous mettez un pas après l'autre. Ça, c'est déjà toute votre vie, vous avez placé entièrement votre foi dans la solidité du pont, puisque vous avez pris les premières fois. Et donc, vous avancez par cette foi débutante, cette foi simple, mais cette foi entière, dans le salut que vous offre le pont. Après, vous traversez tout le pont, et puis vous trouvez, ah, ça s'est quand même bien passé. Le pont m'a tenu. Et puis, le lendemain, ah tiens, le jaguar n'est plus là, c'est pratique ce pont finalement. Et donc, vous commencez à traverser tous les jours. Et là, c'est la foi, maintenant c'est une foi affirmée. Vous voyez, c'est ça la vie chrétienne. Et quelque part, Dieu nous met toujours devant des nouveaux ponts, plus longs, qui nous obligent d'encore croire sa parole et d'encore se lancer par la foi. Et puis, notre foi progresse. Et c'est bon signe quand la foi progresse ainsi. C'est le signe que c'est une foi vraie, une foi authentique. Si vous attendez que des signes et des prodiges, et que le jaguar est juste là et qu'il n'y a pas un miracle, alors là vous êtes embêté. Mais la vraie foi avance avec Jésus-Christ. Et Jean veut que notre foi progresse même à fur et à mesure que nous lisons son récit, son évangile. Il nous présente ce Jésus et il veut que nos foi grandissent pour qu'on ait un plein appui dans ce Jésus. Et pour que notre foi progresse, justement, il a mis tous ces personnages et ces miracles, ces signes que nous pouvons voir en nous découvrant qui est Jésus, comme il a fait. Et Jean termine notre texte, verset 54, en rappelant que c'était ce second miracle. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Et en disant cela, Jean nous renvoie au premier miracle, c'était quand Jésus a changé l'eau en vin, et puis un deuxième. Et donc Jean commence à compter les signes. Par la suite, Jean va pas encore signaler le nombre des miracles. Il commence à compter les premiers deux, et après il vous laisse compter pour la suite. Et si vous continuez votre lecture, vous commencez à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a trouvé 7 miracles dans l'évangile de Jean. Et quel est le 7e miracle? Eh bien, ça se passait un jour où Jésus se trouvait devant le patron de ce fonctionnaire, le roi Hérode. Et ce roi Hérode, lui, il voulait des signes et des prodiges. C'est pour ça qu'il voulait voir Jésus, notamment lors du procès, ce week-end de Pâques. En Luc 23, verset 8, « Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir. » À cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, il espérait qu'il verrait faire quelques miracles. Hérode veut voir Jésus. Hérode est dans la joie de voir Jésus. Hérode donne un bon accueil à Jésus en quelque sorte, mais c'est pas le bon accueil, c'est pas la vraie foi. Lui, il veut juste voir un signe, un prodige. Et quand Jésus lui fait pas un signe, un prodige, il le livre pour être crucifié. Et ce jour-là, Jésus n'a pas fait un signe, un prodige, comme on l'entendait, comme il aurait pu. Ce jour-là, il a été tué. Il a été mis en croix. Mais ce jour-là, il a accompli la réalité vers laquelle tous les signes pointaient. Ce jour-là, il a donné sa vie pour nous donner la vie. Et le signe, le miracle, c'est qu'il est ressuscité dans le plus grand signe de tous les temps pour nous donner la vie. En ressuscitant des morts, il nous guérit de la mort spirituelle, de la mort éternelle qui nous menace à cause de notre péché, à cause de notre incrédulité, et il nous donne la vie. Et finalement, ce récit, c'est la confirmation des, de ce verset qu'ont récité les SMS ce matin, que Jésus était la parole incarnée, la parole descendue de Dieu. Et dans cette parole, il y avait la vie. Et Jésus ici donne la vie, sachant qu'un jour, il va nous donner complètement la vie par sa mort et sa résurrection. Je ne peux pas m'empêcher de croire que si Jean répète cette phrase deux fois, « Ton fils vit », c'était une des phrases clés. Jésus dit à ce père, « Ton fils vit ». Mais l'entendre plusieurs fois, ça résonne dans notre esprit finalement, et quelque part c'est ce que l'univers entier peut dire à Dieu après la résurrection. « Ton fils vit, ton fils vit, et parce qu'il vit, je peux avancer dans le chemin de la vie avec courage et espérance. » Et quelle que soit la situation de détresse, le problème que la vie nous livre, on peut les apporter à Jésus et savoir qu'il a déjà une solution, il a déjà la vie à nous transmettre.